Question d'islam par Ghalib Bensheikh. Bonjour, et c'est avec plaisir que je vous retrouve. Aujourd'hui, nous parlerons de Marie. Marie, Myriam, Mariam, Maria, selon toutes les appellations, et tout particulièrement le regard islamique sur Marie. Et j'ai plaisir à vous présenter nos deux intervenants, à la fois Marie, Myriam. Bonjour Myriam.
Bonjour Leb.
Myriam, vous êtes sociologue. Et vous êtes aussi actrice du dialogue interreligieux et tout particulièrement le dialogue islamo-chrétien. Et c'est pour dire la place qu'occupe Marie, et notamment dans la révélation coranique. Et à vos côtés, il y a Slimane Reski. Bonjour.
Bonjour Slimane. Qui ne suis pas Myriam, mais je suis le papa d'une Myriam.
Ah ben voilà, donc Myriam est au centre de nos discussions ce matin. Slimane Reski, vous êtes diplômé de l'École pratique des hautes études. Vous connaissez bien ces questions de l'anthropologie du fait religieux. Et vous êtes un fin connaisseur de l'œuvre de René Guénon. Vous êtes venu même nous en parler ici, d'une trilogie. Nous attendons les deux autres épisodes. Et vous êtes avec le fils de René Guénon au sein même de la fondation René Guénon, nous aurons l'occasion. Alors, aujourd'hui, si nous parlons de Marie au regard de l'islam, et c'est aussi le titre d'un ouvrage dirigé par Mustapha Chérif, édité à Al-Bourak, et vous êtes deux des contributeurs, il y en a d'autres, vous pensez que Marie est une figure centrale aussi dans la tradition religieuse islamique et qu'il y a un culte marial dans cette tradition, Slimane Reski?
Alors, qu'il y ait un culte au sein de l'islam, je pense pas qu'on puisse aller jusque-là. Par contre, il y a effectivement une vénération et un amour extraordinaire pour la figure de Marie. Pour plusieurs raisons, sa virginité, avec tout le symbole qu'elle comporte, et sa qualité de maman. Très souvent, en arabe, Sayyidat Maryam, on l'appelle Ummuna, notre mère. Et donc, en islam, oui, elle représente... comme dans le christianisme, cette notion de pureté qui est capable, de par sa dimension universelle, de rassembler, chose que l'on a donc besoin aujourd'hui et qui a été un petit peu l'origine du projet en écrivant, rédigeant quoi, ces différents articles où 10 intervenants ont parlé de la vision de Myriam, de Mariam en islam.
Et vous, Myriam Bourekba, en dehors du fait que vous portez ce prénom, votre contribution, j'ai cru la comprendre en deux temps et en deux phases. La première, c'est une approche testimoniale, c'est le témoin que vous êtes et que dit ce prénom pour vous. Et la seconde phase, c'est, je ne sais pas, vous allez nous le dire, ceci vous a amené à enraciner votre engagement dans la mouvance du dialogue interreligieux. Et vous m'aviez dit, tout en préparant l'émission, que vous êtes passé par le Premier Testament.
Oui, tout à fait. Parce que en fait, j'ai commencé par un témoignage parce qu'il y a beaucoup d'enfants maghrébines ou de femmes d'origine maghrébine qui vivent en France et qui n'ont pas bénéficié tout à fait de leur héritage musulman. Et quand elle s'appelle Myriam pour des conventions sociales, disons, on prend Myriam parce qu'en français, c'est orthographié Myriam. Elles sont, la première chose avec laquelle elles sont confrontées, c'est le regard des juifs qu'elles côtoient. Parce que pour eux, c'est immédiatement la sœur de Moïse et d'Aaron. Donc, c'est ce qui s'est passé pour moi, puisque je n'avais pas eu d'héritage religieux de par mes parents issus d'un couple mixte. Et donc, j'ai cheminé. C'est pour ça que ma contribution s'appelle « Cheminement vers Mariam ». Donc, j'ai cheminé comme ça, en commençant par la rencontre avec les amis juifs et à m'interroger sur cette figure de Myriam. Et ensuite, j'ai rencontré des amis chrétiens, mais qui m'ont dit « Ah, mais tu sais, Myriam, en fait, c'est Marie, c'est la mère de Jésus ». Et mais bon, on lui a changé son nom parce que on voulait pas la confondre avec la sœur de Moïse. Alors on a fait tomber le M final pour ne pas la confondre avec la sœur de Moïse. Donc voilà. Et j'ai voulu témoigner pas pour, disons, me mettre en avant, mais en pensant à mes sœurs qui sont partis de la même situation. Et puis je pense que d'un point de vue interculturel, d'abord, avant qu'ils soient interreligieux, c'est aussi un témoignage qui peut être intéressant.
Alors on dit souvent que les prénoms sont toujours une idée aux parents, donc ce n'était pas la vôtre, et qui a décidé de ce prénom, l'avez-vous su après coup? C'est votre père, votre mère, les deux réunis?
Ben, ma grand-mère maternelle, que j'aimais beaucoup, qui était catholique, donc s'appelait Marie-Louise. Donc la première fille s'appelle Myriam et la deuxième s'appelle Louisa.
Alors, à la scène des en deux, voilà. Son prénom composé. Bien, nous aurons encore à revenir sur ce témoignage. Maintenant, pour les aspects un peu plus doctrinaux, Slimane Reski, que nous verrons avec vous, Marie est la seule femme citée nommément dans le Coran. Il y a toute une sourate qui porte son nom, ce sont des choses classiques que nous connaissons, c'est la sourate 19. Une sourate étant un chapitre sans être véritablement un chapitre. Quelle est la place qu'occupe Marie, à la fois dans la révélation coranique et après nous verrons ensemble dans toute la tradition?
Elle a une place très particulière. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs comme le Coran, hein, quand dans le verset qui dit « Wastafaki al alamin », il y a une élection très particulière de Marie.
Alors, pour traduire le verset, c'est « Il t'a élu ou il t'a purifié de tous les univers ».
Voilà, tout à fait. Donc elle représente vraiment la perfection incarnée en ce monde. Et Ibn Arabi lui-même, d'ailleurs, un passage que reprend Tayeb Chouiref dans sa contribution, très bonne contribution d'ailleurs de Tayeb Chouiref, il reprend justement ce passage où Ibn Arabi dit qu'à un moment donné dans sa vie, il a eu la prise de conscience que le prophète a aimé les femmes et que s'il a aimé les femmes, c'est qu'il y avait une très bonne raison et il fait un long passage sur lequel il explique toute la noblesse que Dieu a déposée dans la femme et que Marie, au point de vue coranique, va incarner justement cette perfection sous l'aspect féminin. Et donc elle apparaît 34 fois dans le Coran. Et dans les 34 fois, la plupart du temps, elle va apparaître avec, c'est-à-dire comme étant la mère de Jésus, c'est-à-dire la mère du Verbe divin. Issa ben Maryam.
Oui, et je ne voulais pas vous interrompre pour ne pas alourdir et interrompre votre propos. Ibn Arabi, c'est le maître mystique, docteur Maximus, né en 1165 à Murcie, mort à Damas en 1240. Je dis simplement ça pour les auditeurs. Et Tayeb Chouiref, c'est un islamologue dont nous avons eu le plaisir et la joie de l'accueillir ici quelques fois. Marie, mère du Verbe divin, son sein est virginal. La rationalité nous poserait la question, est-ce qu'il y a eu une naissance miraculeuse ou pas? C'est-à-dire que les croyants musulmans, tout comme les croyants chrétiens, pensent qu'il y a eu une naissance de cet ordre.
Alors, puisque le Coran nous dit qu'elle a préservé son sexe et que donc apparemment il n'y aurait pas eu de relation avec un homme, alors derrière, oui, c'est fort possible. Personnellement, dans l'article, dans la contribution que j'ai fournie, je me suis concentré sur tout l'aspect de cette virginité pour démontrer qu'en réalité, cela correspond avant tout à un concept, à une réalité spirituelle, beaucoup plus que physiologique. Donc en soi, l'important, bien que socialement ça puisse avoir un rôle, ce n'est pas d'être vierge physiologiquement, c'est de l'être spirituellement. Et donc j'essaye de démontrer qu'à travers des grandes figures qui ont été justement les incarnations, les individualisations du Verbe dans le cycle humain, comme le Bouddha, comme Idris, Hermès, etc., où on va retrouver finalement que la maman va s'appeler Maria, Maya, on a tout le temps ce rapport avec la notion de Marie, mais en même temps avec la notion de l'eau, puisque le moi qui correspond à Marie, c'est le mois de mai, c'est le mois des eaux. Et donc, comme toute vie vient de l'eau, l'eau est porteuse du Verbe. Et en islam, on va le retrouver à travers tout le concept de la ummiya, c'est-à-dire de la virginité intérieure, puisque le prophète, pour recevoir le Verbe divin qu'est le Coran, dont Ibn Arabi dit qu'il va être enceinte et il va être la mère du livre quand il le reçoit, eh bien finalement, en tant que ummi, au moment où il le reçoit, puisqu'on a une prière, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, al-nabil ummi. Al-ummi, qu'on traduit souvent par les lettrés, en réalité, c'est la page blanche, c'est celui qui est vierge de tout verbe autre que celui divin.
Alors, cette présentation symbolique, tout à fait recevable et intelligente, quand je dis intelligente, c'est l'intelligence du cœur avant tout, d'une virginité spirituelle, tout simplement parce que l'homme n'est pas une parthénogenèse. On ne peut pas expliquer cela par une parthénogenèse, comme certains veulent bien le dire. Myriam, oui, vous vouliez dire quelque chose avant que je vous pose la question. Oui.
Moi, je suis intéressée aussi par, en tant que femme, parce que j'ai posé trois questions dans cette contribution, donc ce témoignage, la question interreligieuse et la question de la position de la femme. Aujourd'hui aussi, à quoi ça renvoie aujourd'hui? Et ce qui m'a intéressée, c'est Myriam dans le désir de sa mère. Parce que d'abord, c'est Myriam dans le désir de sa mère, c'est une femme dans les mots d'aujourd'hui, on dirait, qui avait une liberté extraordinaire, puisque elle va au temple et elle voue le fruit de ses entrailles au temple. Elle attend.
Alors que d'ordinaire, ce ne sont pas les filles qui servent au temple.
Voilà, ce ne sont pas les filles. Et donc, quand elle voit qu'elle a accouché d'une fille, elle dit, mon Dieu, c'est une fille. Et elle lui donne le nom de Myriam. Et alors là, ce qui est très important, je pense, et je l'ai interprété comme ça, c'est que, à mon sens, c'est comme ça que je le ressens, il y avait un besoin d'actualisation religieuse chez elle. Et donc, en fait, elle attendait peut-être le nouveau Moïse. Et comme elle a accouché d'une fille, eh bien, elle l'a appelée Myriam. Elle n'aurait pas le nouveau Moïse, mais elle aurait la nouvelle Myriam. Et je pense que ça, c'est un point très important. Ensuite, son enfance à Myriam au temple aussi est très, très, très importante parce que elle est, les versets, le Coran nous dit que elle n'est pas susceptible d'être influencée par le mal. Et au temple, elle peut aussi se vouer entièrement à l'oraison. Et son oncle, Zacharie, oui, est étonné parce qu'il voit qu'il y a des miracles autour d'elle. Et donc, il se dit que bien, malgré son âge avancé, il peut lui aussi attendre un miracle. Et il demande la naissance d'un fils, alors qu'il est très âgé. C'est ainsi que va naître Yahya, donc Saint-Jean-Baptiste, qu'on appelle l'avérateur de Jésus. Et donc, cette histoire-là, pour moi, elle est très importante aussi en tant que femme d'aujourd'hui. Parce que c'est la liberté de la mère et la fille qui aussi a une vie, qu'on ne peut pas réduire à ce qu'on entend d'habitude par le rôle féminin. Donc ça, c'est très important, je pense, pour aujourd'hui. Donc l'annonciation est d'abord faite au temple et ensuite au désert. En fait, elle a un courage immense parce qu'elle répond à Dieu. Hein, qui lui parle par son messager, l'ange Gabriel, et elle a le courage d'accepter la mission, alors qu'elle sait que c'est une mission impressionnante, enfin une mission qui pourrait l'écraser, parce que dans un milieu traditionnel, hein, on imagine comment faire un enfant hors mariage, accepter de braver. Le scandale, en fait.
Et donc, du courage, hein, c'est
elle a un courage extraordinaire. Et c'est pas seulement parce que, c'est vrai qu'il y a des femmes aujourd'hui, même catholiques, qui sont un peu énervées par ce qu'on a fait de la figure de Myriam. Il y a pourvu qu'on nous réduise pas encore à ça, la virginité, etc. Et donc, moi, ce que je lis dans le Coran de Myriam, c'est pas quelqu'un de passif ou, par exemple, la femme soumise, la femme passive. C'est une femme qui a un courage extraordinaire. Voilà, je voulais déjà.
Très bien, vous l'avez développé. Je me retourne vers Slimane Reski. Alors, nous avons compris que le principe de virginité spirituelle, ce terme arabe quasi intraduisible de omiya, et qui ne relève pas d'une notion d'illettrisme, mais le fait d'être plutôt vierge de toute autre écriture ou réception de livres célestes que celui qui vient de Dieu dans le contexte de la croyance et de la foi monothéiste et en l'espèce islamique. Est-ce que vous pardonnez l'anglicisme si je vous dis que Marie est la First Lady du paradis? Donc c'est comme ça qu'elle est présentée. Et donc son rang central ou primordial est ainsi perçu par les fidèles musulmans depuis maintenant 15 siècles. Ou c'est exagéré de présenter les choses ainsi?
Non. En tant que figure, le prophète lui-même l'a présenté ainsi. En tant que figure. Après, moi, ce qui m'a semblé important, c'est toujours de prendre un peu de hauteur, de remonter au niveau des principes et de démontrer plusieurs choses. C'est que la notion de virginité est tout simplement une étape spirituelle nécessaire pour tout être humain. C'est-à-dire que toutes les grandes figures de la spiritualité du cycle humain, hommes comme femmes, et Marie en particulier, mais d'autres aussi, hein, la reine de Saba dans le Coran, ou la femme de Pharaon, ou etc., les filles de Lot, il y a beaucoup de figures féminines dans le Coran qui nous inspirent également, on s'aperçoit que elles sont là, comme les hommes d'ailleurs, comme les prophètes, elles sont là comme modèles. Comme modèles, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont là pour nous indiquer notre réalité personnelle à nous. Et au moment où on veut s'inscrire dans une démarche donc initiatique et de réalisation personnelle, on doit se considérer nous-mêmes. C'est-à-dire que Marie est en nous, c'est-à-dire le principe de virginité est en nous. Et que donc, le rapport divin, la ummiya en islam, c'est la capacité d'établir un rapport direct à Dieu sans intermédiaire. Et dans la description, j'ai fait un article sur le domaine, le prophète, il est dit avoir été créé en premier, alors qu'Adam était encore entre l'eau et l'argile, et que donc il était dans un état où il n'y avait que lui, puisqu'il était la première créature. Et là, il dit Kuntu Nabiyan, il était prophète, donc il avait déjà une connaissance. Cette connaissance étant le seul, il n'a pu la recevoir que de Dieu et d'aucun autre être humain. Donc là, il y a vraiment un rapport direct à Dieu qui est cet état de virginité que l'on doit retrouver. Alors le cœur, en tant que tel, la virginité, elle se présente comme une notion de nettoyage du réceptacle, puisque c'est l'endroit où l'on va recevoir le Verbe divin. Et les maîtres soufis, par exemple, en islam, nous disent tout le temps, si au fond de ton verre, en tant que réceptacle, il y a un peu de boue, lorsque l'eau pure y sera versée, ton eau va, elle, se mélanger à la boue et deviendra impure. Donc avant d'attendre que de l'eau pure soit versée, donc le Verbe, nettoie d'abord le réceptacle, de façon à ce que quand elle est versée dans le réceptacle, elle demeure pure.
Alors, vous parlez dans... J'allais poser une question sur le principe métaphysique, Myriam, après je reviendrai à vous. Oui. Dans votre contribution, vous insistez aussi sur l'aspect métaphysique, spirituel, ça vous nous l'avez donné, de cette notion aussi de virginité intérieure.
Oui.
Et avec... Je lis qu'il y a un principe actif masculin émetteur transmis par l'ange Gabriel et qui vient ensemencer ou féconder le sein, encore une fois virginal et en l'espèce de Marie.
Voilà le principe réceptif. Et en fait, on a toujours ces deux principes. Et on va retrouver par exemple dans une des choses que j'ai voulu absolument démontrer, c'est qu'entre le principe qui était le principe marial, celui de la virginité, celui de l'enfantement, de la réception du Verbe, en réalité c'était un principe universel et qui donc au plan métaphysique ne pouvait être réduit à une figure. Même si elle incarne plus particulièrement cette notion, toutes les grandes figures de la spiritualité ont aussi, eux, porté cette notion d'enfantement, de virginité, etc. Alors, cette notion de polarité masculine-féminine à travers l'ange Gabriel et Marie, qui donc vont représenter le masculin et le féminin, et enfanter donc le Verbe, on retrouve cette notion de contact direct, puisque Gabriel est de caractère divin et non pas humain, et le contact est direct. Alors, en islam, on a un moment où on va retrouver un équivalent. C'est lors du voyage nocturne, du voyage céleste du prophète. Le prophète va être mandé par Dieu. L'ange Gabriel va venir le chercher à la Mecque pour se rendre auprès de Dieu. Et il vient le chercher avec une monture, Al-Buraq, qui est dite être avoir un corps d'animal et un visage de femme. Et là, on voit qu'à travers Gabriel, on a un principe à nouveau actif masculin. À travers le Buraq, un support... Et donc, une figure féminine. Et c'est toujours dans cette synthèse des deux figures que le verbe, en l'occurrence le prophète, va être porté jusqu'à Dieu. Donc pour moi, l'essentiel, il était de dire que toutes les figures de la spiritualité, depuis le début jusqu'à la fin, Adam et Ève en sont un très bel exemple aussi, cette notion-là a toujours été présente. Et qu'aujourd'hui, nous, êtres humains, si on veut pouvoir actualiser la présence mariale en nous et en tirer les bénéfices, il faut bien prendre conscience de ce que signifient réellement les notions de virginité, d'enfantement, pour pouvoir les actualiser dans notre propre vie.
Oui. Rappelons simplement que Al-Buraq veut dire l'éclair et c'est le nom de cet animal composite. Rappelons le Pégase de la mythologie, un animal ailé, une monture ailée à visage humain, féminin. Nous sommes sur France Culture, dans l'émission Culture d'Islam. Aujourd'hui, notre émission, elle est de facture spirituelle, théologique, métaphysique, avec deux contributeurs d'un ouvrage intitulé « Marie, Marie au regard de l'Islam ». L'ouvrage est dirigé par Mustapha Chérif aux éditions Al-Buraq, comme par hasard, toujours ce nom de cet animal mythique, mythologique, en tout cas spirituel. Et... avec vous, Myriam. Alors, le cheminement vers Myriam, c'est le titre de votre contribution et votre prénom, c'est Myriam, Myriam Bouregba. Je rappelle que vous êtes sociologue et vous êtes actrice active du dialogue interreligieux et du dialogue islamo-chrétien. Il y a toute une christologie coranique propre à la vision islamique de Marie et de Jésus. Tantôt, elle coïncide avec... La christologie catholique, voire protestante et orthodoxe, tantôt non. Alors, donc Marie est médiatrice, finalement.
Oui, Marie est médiatrice. D'ailleurs, actuellement, il y a beaucoup d'événements sur le plan du dialogue islamo-chrétien autour de Marie, ensemble avec Marie, marcher avec Marie, qui est la marche conduite par Raled Roumo à Chartres chaque année.
Qui est un des contributeurs.
Nous sommes une dizaine de contributeurs. Il y a donc le rassemblement de Longpont aussi dans l'Essonne. Bien, donc, et je vois que les amis chrétiens sont très mobilisés par ça. Ils ont très envie de rencontrer les musulmans. Alors, c'est pourquoi il nous faut quand même savoir.
Et les musulmans ont envie aussi de rencontrer les chrétiens.
Oui, mais peut-être, ils n'auraient pas pensé autant que les chrétiens à partir de Marie pour cette rencontre. Je pense que c'est quand même honnête de le souligner. C'est pourquoi c'est très important que les musulmans s'approprient Mariam coranique, parce que pour être en dialogue, il faut savoir être sur dans son pas identité au sens fermé, mais dans sa vérité spirituelle. Je voudrais revenir, parce que en donnant aussi une sensibilité féminine sur la question du principe féminin masculin. Je pense que le principe féminin masculin, il est là dans la rencontre d'un homme et d'une femme, sur tous les plans, mais il est aussi en soi. Et il semble que les spirituels les plus évolués aient pu faire converger leur polarité dite féminine ou réceptive et dite masculine ou active. Et Mariam dans le Coran en donne une très très bonne, très belle démonstration. Et j'aime bien cette image, parce que quand elle a accouché et qu'elle pleure, qu'elle se lamente, alors il semble que c'est l'ange qui lui parle. Enfin, il y a des discussions entre théologiens pour savoir si c'est l'ange ou si c'est son fils Jésus. Mais il ne te lamente pas, secoue le palmier et des dattes fraîches tomberont sur toi. Et chez les Arabes, m'a-t-on dit, habituellement, quand quelqu'un se lamente et n'est pas très, ne sait plus quoi faire, on lui dit, mais secoue le palmier. Donc, la figure est restée, même dans le langage très populaire. Voilà. Et pour moi, secoue le palmier, c'est très important, ça veut dire... Fais ce que tu dois faire pour récolter ce que la providence divine a prévu pour toi. Mais il ne s'agit pas d'être seulement passif. Il faut agir. Et donc, c'est la convergence des polarités réceptives et actives. Et les prophètes, donc, qui sont... Moi, je dis dans ma contribution que Mariam est une prophète. Déjà, dans l'Ancien Testament, elle était considérée comme la première prophétesse de la Torah. Et donc, il y a des théologiens musulmans aussi qui ont dit qu'elle était prophétesse. Elle est prophétesse et plus que cela, parce qu'elle reçoit dans sa chair l'esprit venu de Dieu. Et comme son fils d'ailleurs, il est prophète et il est aussi l'esprit venu de Dieu. Et donc elle nous donne une figure d'accomplissement spirituel extraordinaire pour les hommes, mais pour les femmes aussi. Puisque les femmes doivent les autres femmes qui sont citées dans le Coran le sont toujours en référence, la personne référente c'est l'homme. Et c'est seulement Myriam, la mère de Jésus, qui est nommée en tant que telle. Et ce n'est pas par hasard, c'est parce que elle justement peut être prise comme une référence accomplie de par son cheminement spirituel pour les femmes et pour les hommes.
Slimane Alesky, tout en progressant là dans l'émission, on viendra à l'Annonciation, à la Nativité, ces choses-là, comment elles étaient coranisées ou islamisées, en tout cas du point de vue de la révélation coranique. Je voudrais m'attarder avec vous sur toujours ce principe universel qui a une portée considérable, cette notion de virginité hors le monothéisme, puisque vous dites que dès lors qu'il est universel, on le trouve aussi dans les sagesses des traditions religieuses d'Extrême-Orient. Quelle résonance, selon vous, y a-t-il entre cette notion à la fois de virginité au sein du monothéisme abrahamique, judéo-islamo-chrétien, et les autres traditions d'Extrême-Orient?
Alors les traditions sapientiales de manière générale, c'est-à-dire depuis la Grèce jusqu'à l'Extrême-Orient, on va retrouver tout un ensemble de symboles qui finalement nous ramènent toujours aux mêmes connaissances et aux mêmes principes. Là, on parlait par exemple de la polarité masculin-féminin, le yin-yang chinois, en est tout à fait une image. Le Purusha Prakriti de l'hindouisme en est aussi une autre image. Et Prakriti, qui va être la matière première originelle, a justement pour particularité d'être totalement vierge. Donc René Guénon explique que cette virginité, au niveau de Prakriti, est en réalité un caractère informel et complètement indéterminé qui lui permet de recevoir l'influence de Purusha et de pouvoir lui donner existence telle qu'il est et non pas telle qu'elle le voudrait. Et c'est là tout le problème d'une démarche spirituelle, puisque l'important, il est à chaque fois de savoir tirer les significations symboliques qui sont dans les enseignements. Je reprends un exemple, l'histoire de Maryam, de Marie donc, à qui on va demander de secouer le palmier. On a une maman qui est en train d'accoucher, qui donc est dans les douleurs de l'accouchement. Elle a besoin d'être nourrie, elle a besoin d'eau, et on lui dit pour cela, secoue un palmier. Déjà, un homme fort, il pourrait secourir un palmier, que ça ne changerait rien du tout. Donc là, on voit bien que Dieu, dans la miséricorde, va lui demander de participer et donc d'être active à la réception de ce dont elle va avoir besoin pour l'accomplissement de cette naissance. Et en même temps, on voit bien que c'est pas le fait qu'elle secoue le palmier qui va faire tomber les dattes, et qu'en fait, il y a une grâce divine. Et en fait, il y a une double grâce qui correspond à cette double élection de Marie. Et c'est cette grâce, c'est la conscience de cette grâce, finalement, que tout nous vient de Dieu, et qu'en réalité, nous sommes, nous, vierges, de tout effort et de toute réalisation, quelle qu'elle soit. Autant que l'on pense que c'est nous qui faisons les choses ne se passeront pas. Et cette virginité, c'est justement la capacité de laisser Dieu agir dans nos propres vies et d'accomplir le chemin qu'il nous trace, de mettre nos pieds dans les traces du Verbe divin, et ce, avec le courage que tu évoquais tout à l'heure, Myriam, puisque le Coran lui-même va évoquer cette notion à travers les notions de courage. Parce que c'est peut-être ce qu'il y a le plus difficile. On reviendra un petit peu plus tard sur la vie de Marie, qui a été une succession de difficultés. Elle naît d'une maman stérile, elle va être enceinte sans mari, dans une société patriarcale, etc. Elle va devoir s'exiler, elle va...
Et comment remonte-t-elle ce qui apparaît comme une sorte d'opprobre terrible? Donc elle est quasiment mise au ban les premiers temps. Tout et c'est vrai. Qui l'innocentera?
C'est son fils.
Qui parlera au berceau.
Voilà.
Ça paraît aussi prodigieux.
Mmh. Ouais, filmé,
et quelle explication donnez-vous à cela, Myriam? Enfin, l'explication symbolique, j'entends.
L'explication symbolique, c'est que... mon article s'intitule « Cheminement vers Myriam ». Donc, je continue à cheminer pour trouver toutes les... je cheminais dans le mystère. Parce que c'est vrai qu'il est étrange qu'un enfant puisse parler au berceau.
Mais alors, moi, ce que... Vous avez dit tout à l'heure, il serait l'écho d'un ange qui, lui, a... Enfin, l'angélologie est tout un autre débat.
Voilà. Mais... Moi, ce qui me retient le plus mon attention, c'est le fait que le Coran dise « Elle est justifiée par son fils ». Et ça, c'est une parole universelle qui peut conduire tous les parents à méditer. Parce que, quelles que soient les relations que nous avons avec les enfants, nous sommes justifiés par eux. Alors parfois... en bien ou en mal, on peut dire. Mais en tous les cas, il porte la trace de ce que nous avons voulu, de notre intention, de notre orientation. Et en positif ou en négatif, en tous les cas, il la démontre. Et donc, il nous justifie. Et ça a une valeur universelle. Et pour d'autres femmes qui auraient subi l'opprobre, justement, parce que du fait de la survenue de leur grossesse et de leur enfantement, eh bien, je crois qu'elles peuvent dire aussi qu'elles sont justifiées par leur enfant, parce que parfois leur enfant leur donne un amour si grand qu'il comble très largement l'opprobre. Et puis aussi, la vie de cet enfant montre que, en réalité, les conditions de cette naissance n'étaient pas le fait du hasard. C'était qu'il y avait une mission dans cette naissance-là, ces conditions-là.
Slimane Lesky, je ne vous ai pas laissé aller jusqu'au bout de l'énumération des différents obstacles de la vie et la biographie et la géographie de Marie. Mais en entendant Myriam Bourekba à l'instant parler du fait d'être enceinte, vous déconstruisez la notion de tomber enceinte et vous dites que l'expression est curieuse, en tout cas en vocabulaire français. Mmh. Qu'est-ce que c'est que tomber enceinte? On ne tombe pas en réalité, oui. Mais quelle est l'explication que vous en donnez? Enfin, les auditeurs seront intéressés par entendre votre explication que j'ai lue ici. Et elle a, pardonnez-moi de vous dire les choses comme ça, parce que je ne suis pas en train de distribuer des satisfaits, mais elle a beaucoup de sens et de pertinence.
C'est la symbolique, encore une fois, il y a des règles de lecture de la symbolique. Personnellement, les différentes clés que j'ai pu obtenir, je les dois à René Guénon qui a fait un merveilleux ouvrage sur cette notion. Alors, on va retrouver cette expression de tomber enceinte, mais on va aussi tomber amoureux. Dans les deux cas, il y a une notion de tomber qui nous ramène vers le bas. Or, on sait, par exemple, en islam, que le lieu, le temple, le lieu par excellence où on va avoir un contact à Dieu, est la mosquée qui en arabe se dit el-mesjid, qui vient de la racine sajada, qui veut dire se prosterner et donc descendre au plus bas.
Donc la mosquée devient le lieu de la prosternation.
Le lieu de la prosternation, donc le lieu où on descend. Et dans cette descente, il y a à nouveau toute une symbolique qui est celle, dans les différentes traditions, que l'on appelle la chute aux enfers, c'est-à-dire la chute vers le bas. Et c'est dans cette démarche-là qu'il y a virginisation, puisque c'est dans la traversée des enfers que l'on va retrouver chez tous les grands spirituels, le prophète Mohammed lors de son voyage nocturne. Et en fait, la traversée du feu, c'est la traversée de ce qui va nous purifier de toutes les scories, de tous les surplus. Et El-Hallaj, par exemple, disait « Mais mon Dieu, pourquoi te cherchent-ils tous en haut comme si tu n'étais pas en bas ?» Et Ibn Arabi explique qu'en réalité, Dieu, il est plus en bas, parce que si par le bas, on décrit les enfers, donc les endroits de la douleur, Dieu étant miséricordieux, il est avant tout beaucoup plus là où on a besoin de lui, c'est-à-dire là où il y a souffrance, que là où on n'a pas besoin de lui. Et à cette image-là, le Christ, par exemple, quand il va entrer chez Matthieu, qui à l'époque est un percepteur d'impôts et très mal vu de ses corrégionnaires, de ses concitoyens, quand ses compagnons d'alors, Jean, Pierre et les autres, vont lui dire « Mais pourquoi vas-tu là-bas ?» Le Christ va leur répondre « Mais c'est pour eux que j'ai été missionné. C'est eux qui ont besoin de moi. » Et donc cette notion de tomber, en fait, elle est très importante, puisque le Christ, par exemple, dans le christianisme, s'il est la clé de voûte, il est aussi la pierre d'achoppement. C'est-à-dire, il est l'outil qui va nous faire tomber et nous faire chuter. Et donc là, toute la chute adamique va prendre son sens.
Pour pouvoir se relever.
Et il faut descendre au plus bas pour remonter. C'est ce qu'on retrouve dans la Divine Comédie de Dante qui descend jusqu'au corps de Lucifer au centre de la Terre, c'est-à-dire là où sont concentrées toutes les forces attractives de la pesanteur qui nous tire vers le bas. Mais c'est aussi la chute adamique où il y a chute, de laquelle Abou Madian disait, si les gens comprenaient tout le bien que Dieu a caché dans cette chute, il dit, si j'avais été à sa place, j'aurais pas mangé un fruit, j'aurais mangé tout l'arbre.
Oui, alors vous avez cité Boumediene qui est un mystique, un homme spirituel, et aussi Al-Hallaj, surnom signifiant le quart d'heure des consciences. Il a été supplicié en 922, je le dis toujours parce que je me fais un peu le médiateur entre vous et les auditeurs.
Bien sûr.
Myriam Bourekba, bien sûr, avant peut-être dans cette dernière partie qui nous reste de temps imparti dans l'émission, et parler en gros de Marie dans le Coran, les différents versets qui l'annoncent, qui l'énoncent. Vous avez fait un travail aussi d'ordre lexical, oui, à la fois en l'empruntant à l'hébreu et à l'arabe, oui, sur le prénom même, sur le nom, oui, de Myriam.
Oui, c'est pour ça que la contribution, c'est d'abord cheminement interculturel et ensuite interreligieux. Oui, parce que c'est un cheminement lexical qui relève du témoignage, parce que ça s'est présenté comme ça pour moi. En fait, j'ai fait des études de langue et civilisation arabe. Néanmoins, je ne suis pas arabisante, c'est-à-dire je ne peux pas parler couramment l'arabe, mais je me suis passionnée pour la linguistique. Et donc, du fait de ces études, j'ai cherché le nom, la signification du nom. En arabe, en hébreu, en araméen. Et en français, bon, j'ai juste noté que ça renvoyait inconsciemment, au moins inconsciemment, l'anagramme, c'est « aimer » de Marie. Donc, mais bon, j'explique que pour les personnes de culture linguistique, enfin de culture sémitique, ce serait malvenu de, par souci, disons, d'intégration, d'accommodement, de faire tomber ce M final. Parce que symboliquement, bon, chaque lettre, bon, a un nom, un nombre aussi, un chiffre, mais il a une correspondance symbolique. Et le M final, autant le M initial représente l'eau, la mer, bon, et le M final, c'est renvoie à l'universel, c'est-à-dire c'est cet aspect peut-être maternel, mais universel. Donc, c'est très important de garder ce M final. Et j'explique aussi que si en hébreu, c'est Myriam et pas Mariam, c'est normalement l'affixe en hébreu aussi est A, c'est Ma. Mais il devient I parce que la racine qui suit est vocalisée, la consonne suivante est vocalisée en I. Et donc, en hébreu, l'affixe doit prendre la même vocalisation que celle de la consonne suivante. C'est pour ça qu'en hébreu, c'est I, alors que normalement, l'affixe, à proprement parler, il est aussi vocalisé en A. Voilà. Et donc, au jour où on oublie peut-être que les Arabes sont des sémites, puisqu'on entend parler beaucoup de sémitisme et tout ça, et on exclut peut-être un peu trop facilement les Arabes de cette culture-là. Aussi, je pense que c'est très important, d'autant que d'après les linguistes qui travaillent sur ces langues, il faut passer par l'arabe aujourd'hui, par l'arabe littéraire, pour retrouver le sens de certains mots de l'hébreu moderne qui a été perdu du fait des pérégrinations. Voilà.
Parce que les deux langues sont sinon sœurs, elles sont au moins cousines. Oui,
elles sont rattachées au proto-sémitique. Oui.
Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui, nous parlons de Marie, en tout cas la version, la vision, le versant islamique de Marie, avec deux contributeurs dans un ouvrage dirigé par Mustapha Chérif. Et ce livre est intitulé tout simplement « Marie au regard de l'Islam » aux éditions Al-Bouraq. Avec Slimane Reski, qui est diplômé des hautes études, de l'école pratique des hautes études, et notamment dans les questions religieuses, un diplôme en anthropologie du fait religieux, et un homme qui dirige avec beaucoup de maestria des chaînes sur YouTube, et surtout un fin connaisseur de l'œuvre de René Guénon. Et Myriam Bouregba, sociologue et actrice du dialogue interreligieux et notamment le dialogue islamo-chrétien. Il nous reste peu de temps pour cette dernière partie. Slimane Reski, vous avez évoqué dans votre contribution une anecdote rapportée par Michel Chodkiewicz. Je fais toujours le lien avec l'effacement, la virginité, l'annihilation même. Et on rapporte que l'illustre et célèbre Fakhreddin Razi, un grand théologien, voulait goûter un peu à l'initiation spirituelle. Et donc, il est allé voir un grand maître, Najmuddin Kubra. Et qu'est-ce qui s'est passé après ?
Alors, il l'a reçu et en fait, il lui a expliqué que toutes les connaissances qu'il avait, qui relevaient essentiellement du mental, avaient au fond une certaine limite et que le mental, en tant que tel, était incapable d'une synthèse universelle et d'une réception, d'une élévation de plan de conscience et donc d'une réception de l'intuition directe et qui donc correspond à cet état de virginité où on reçoit directement. Et pour ça, donc, Razi a accepté de se mettre sous la direction de Najmuddin Kubra pour parvenir à cet état de conscience réceptif, donc marial, puisqu'il est réceptif. Et voyant que ça impliquait la perte de toutes ses connaissances réflexives, et finalement il a refusé, et il a dit « je ne peux pas, c'est au-dessus de mes forces ». Et là on retrouve vraiment ce que disait Myriam tout à l'heure, cette notion de courage et de force qui permettent un engagement. Mais on a d'autres rapports sous cette notion-là que je voulais souligner. Tout d'abord celui, comment un peu de temps, je me permets un peu de déborder.
Non, c'est, vous en prie.
C'est celui notamment, par exemple, du rapport de Marie lors de l'annonciation, quand elle reçoit l'annonce du verbe qu'elle va porter. C'est toute la symbolique du Maulid Nabawi, pour nous en islam, c'est-à-dire le fait de fêter la naissance du prophète, qui est l'équivalent de la descente de l'Avatara dans l'hindouisme, et là on voit encore l'universalité du processus, c'est que c'est un germe de lumière qui est reçu en chacun de nous quand la disposition intérieure est prête, quand les prédispositions ont été accomplies, et c'est la graine, c'est tout le symbolisme de la graine de Sénévé dans le christianisme, c'est ce germe de lumière, c'est quand le Coran dit la raja'akum rasulun min anfusikum, un envoyé est venu, mais de l'intérieur de vous-même, de vous-même. Et le fait de le recevoir, nous-mêmes, c'est tomber enceinte de l'esprit, si je puis m'exprimer ainsi, et c'est ensuite le nourrir en secouant notre palmier intérieur, cet axe vertical qui nous relie par le haut, de façon à nourrir en nous ce germe de lumière, ce verbe divin, et lui permettre de s'épanouir. Mais de façon générale, moi, ce que je retiens dans le livre qu'on a fait, je pourrais le résumer en une phrase, c'est que pour Dieu, rien n'est impossible. Parce que dans le cas de Marie, mais dans le cas du prophète Mohammed, dans le cas de Moïse, dans le cas des grands élus, on a quoi ? On a exactement un processus qui est celui sur lequel aucun humain n'aurait parié. Elle va être issue d'une maman stérile, orpheline très rapidement, comme le prophète. Elle va être rejetée de sa communauté, comme le prophète, Mohammed en islam. Elle va devoir courir les routes de l'exil avec son enfant, comme le prophète qui va porter en exil le Coran et le verbe dont il est le révélateur. On a là, vraiment, une voie qu'on ne pourrait juger plus difficile. Or, si Dieu, et là c'est ma lecture, si Dieu nous donne comme modèle ces gens-là, c'est pour nous dire, rien n'est impossible à Dieu, ne désespérez jamais.
Ou une avant-dernière conclusion, en tout cas, Myriam Bourregba, j'ai lu une autre contribution, l'auteur n'est pas parmi nous, une auteure femme, elle dit qu'il y a un des paradoxes, parce qu'elle-même elle l'emprunte à une autre essayiste, et elle dit que l'un des paradoxes qu'on a à travers la figure de Marie, mais d'autres femmes illustres dans les questions spirituelles et notamment dans le monothéisme, c'est qu'elles sont à la fois presque objet de sacralisation, mais aussi elles font objet d'oppression. Alors comment faire au XXIe siècle en sortir de l'antique servitude des femmes passant par le modèle identificatoire effectivement de Marie dont parlait Slimane Reski en début d'émission?
Oui, alors merci de cette question. Je vais faire un très léger retour au début de notre entretien parce que je ressens tout à fait, il y a une rupture, il y a aussi une continuité entre Myriam de la Torah et Mariam de donc la mère de Jésus, et ça renvoie à la question de la position de la femme. La sœur de Moïse et d'Aaron, à cette époque-là, la loi orale nous dit qu'elle ressentait une pointe de jalousie pour ses frères, parce qu'elle était elle-même prophétesse, mais elle ne pouvait pas conduire le peuple à ce titre-là, du fait de sa condition féminine. Bien qu'elle soit aimée de lui et appelée rocher d'eau vive pour son rôle dans le désert. Mais enfin, il y a, donc c'est précisé, une pointe de jalousie. Et 13 siècles après, quand le peuple est travaillé depuis 13 siècles par la loi, donc il y a ce désir de réactualisation religieuse de la part de Anne, donc la mère de Mariam, et qui prénomme sa fille Myriam. Et alors on pourrait considérer d'un point de vue féministe un petit peu basique que c'est une régression, puisque tout d'un coup on nous présente Mariam, la mère de Jésus, comme vierge exclusivement féminine. Bon, alors que en réalité c'est pas ça, c'est que le potentiel de son ancêtre éponyme, hein, il y a une filiation spirituelle. La famille d'Imran. La Torah nous dit que c'est le père de Moïse appelé Amran. Donc, elle a cet héritage et ce potentiel-là, elle l'a conservé, mais elle s'est passée à une autre étape où il y a, je dirais, presque quelque chose de sacrificiel, puisque tout son message passe à travers son fils. Et en même temps, c'est un sacrifice qui ne l'exclut pas, parce que dans les musulmans disent que le Coran est issu de la mère du livre, et beaucoup de spirituels musulmans ont considéré que Mariam était la figure de la mère du livre par son silence et justement parce qu'elle donne. Et pour la femme d'aujourd'hui, alors je crois qu'il faut aussi à la fois... Bon, les prophètes ont travaillé, entre guillemets, donc toute leur vie, leur polarité réceptive pour recevoir le message. Et en même temps, ils étaient actifs. Et les femmes peut-être ne partent pas toujours du même point de départ, mais à l'arrivée, il y a aussi nécessité de conjuguer les polarités.
Eh bien, chère Myriam Bourekba, merci. C'est vous qui aurez le mot de la fin, pardon Slimane Risky, pour X raisons, d'abord de contingence de temps, mais aussi pour donner la voix à une femme, et je ne fais pas de sexisme en creux en parlant ainsi. Nous étions et nous sommes sur France Culture dans l'émission Question d'Islam. Nous avons parlé de Marie, qui est à la fois pour l'intercession entre tous les hommes et les femmes, croyants ou non croyants, et en plus elle est médiatrice entre musulmans et chrétiens, quels qu'ils soient, pour un avenir meilleur. Chers amis auditeurs, vous retrouverez les références des musiques et des livres de cette émission sur le site franceculture.fr. L'attachée d'émission est toujours Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Pascal Bénard et la réalisation est toujours assumée par l'ami Franck Lilin. يا أمي.
sera.